France Inter, le 18-20.
Et nous allons au Soudan ce soir, le pays qu'on aime suivre dans Un jour dans le monde, parce que sa transition démocratique est peut-être un modèle à suivre. On n'y est pas, mais premier gouvernement de transition en tout cas. Aujourd'hui, on y vient tout de suite. Le bruit du monde résonne ce soir à Jérusalem, dans un quartier palestinien défendu par les Israéliens. Et sous les radars, Amélie Perrier vous expliquera notamment qu'un Ougandais porte plainte contre son président et que Poutine fait de la moto sans casque. 18h50, le monde en VO, c'est Eva Bétan. 18h55, le monde à l'envers, c'est Jean-Marc Four qui trouve que Boris Johnson a raison. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Et bonsoir Anne-Laure Mahé.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse Afrique de l'Est à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, spécialiste donc entre autres du Soudan. Je disais tout à l'heure qu'on aimait le suivre ce pays, pas le lâcher du regard en tout cas, parce que c'est peut-être la dernière révolution, la dernière en date révolution de ce continent-là, et que peut-être elle est prometteuse. Aujourd'hui donc normalement doit être nommé un gouvernement qui se réunira à partir du 1er septembre avec un conseil souverain, on en parlera ensemble, qui a été nommé lui il y a quelques jours. Un pouvoir civil au bout du compte devra être élu en 2022. Qu'est-ce qu'on attend d'abord de cette composition de gouvernement qui doit envoyer quel type de message et quel type de signal?
Alors le message qui doit être envoyé, c'est que déjà qu'on a sélectionné des gens, non pas à partir de réseaux de politique un peu politicienne, qu'on a vraiment sélectionné des gens compétents, qui n'appartiennent pas à l'ancien système, et qui puissent envoyer un message fort sur le fait qu'on s'attelle réellement à régler les problèmes de fond au niveau économique, au niveau politique du Soudan.
Ça veut dire, pardon, qu'on a été ou qu'on va aller, parce que la composition n'est pas tombée, peu importe, mais qu'on va aller les chercher où? Ce sont des gens de la société civile, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des gens qui reviennent au Soudan, ça va ressembler à quoi ce gouvernement?
Alors c'est très, effectivement, c'est très, c'est toute la question. Alors on peut effectivement s'attendre à ce qu'on aille chercher dans la société civile, dans tout ce qui est peut-être aussi les professions libérales qui ont quand même été assez actives pendant la révolution. Effectivement des gens qui reviennent, comme à l'instar du Premier ministre, qui travaillait dans les organisations internationales pendant un certain temps. Qu'on ait des personnes qui ne soient pas de façon ostensible liées à des partis politiques, mais ce qui en soi est un défi de taille, puisque souvent les gens sont ce qu'on appelle multipositionnés.
Vous allez dire, pardon de le dire comme ça, est-ce que ça existe en fait, ou est-ce qu'on cherche un peu des moutons à cinq pattes? C'est peut-être pour ça que c'est compliqué d'ailleurs.
Oui, je pense que ça explique en partie déjà pourquoi ça a pris autant de temps, ouais, de trouver cinq personnes pour nommer au Conseil souverain. C'est que c'est très difficile d'avoir des gens qui soient des intellectuels, qui ne soient pas liés de façon ou d'une autre à un parti politique. Souvent, les gens sont à la fois politiciens, professeurs, activistes.
Oui, c'est ce qui leur a permis parfois d'avoir leur place de professeurs, etc. Et c'est un peu un cercle vicieux, la place des femmes là-dedans d'ailleurs, parce qu'on en a parlé aussi au moment de cette fameuse transition, et les militants, les manifestants plutôt dans la rue en parlaient vraiment. On a vu des vidéos très emblématiques de femmes qui prenaient part à cette révolution. Quelle est leur place?
On va pas se mentir, pour l'instant c'est une assez grande déception de la part des activistes féminines. Déjà on a eu deux femmes qui ont été nommées au Conseil souverain, c'est déjà pas mal, mais c'est pas nécessairement assez. Et en fait au niveau du gouvernement, de ce que j'ai vu pour le moment dans les noms qui circulent, la liste qui a été donnée en fait par les forces de la liberté du changement au Premier ministre pour qu'il sélectionne, c'est, je crois qu'on a trois femmes, peut-être un peu plus. C'est extrêmement réduit. Et il y a aussi un autre enjeu, c'est qu'après on a des femmes, sans vouloir faire de l'agisme, mais d'un certain âge, et ça c'est aussi au Soudan un des enjeux, c'est de renouveler non seulement au niveau du genre, au niveau de l'appartenance politique, mais aussi au niveau de l'âge, cette élite politique.
Alors, vous avez évoqué le Premier ministre, on y reviendra dans un instant. Je voudrais qu'on se penche un petit peu quand même sur le fameux Conseil souverain qui a été nommé, donc 6 militaires, 5 civils. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est quelle est leur place et leur rôle à côté de ce gouvernement qui va être formé. Qui décide, au fond, des deux? À quoi il sert, ce Conseil souverain?
Alors, c'est 5 militaires, 5 civils, plus une civile en l'occurrence, qui fait consensus, qui a été sélectionnée par les deux parties. Alors son rôle est assez, en fait sur le papier, son rôle est assez réduit. A priori, c'est cette structure-là qui va être responsable, notamment dans la première partie, le premier temps de la transition, des questions de paix et de sécurité, puisque c'est l'affaire des militaires avant toute chose, même si, enfin dans leur esprit en tout cas. Mais après, en fait, ce conseil-là n'a aucun droit de veto sur les décisions du gouvernement. Il a un droit de, voilà, il les avalise, mais en réalité, s'il n'est pas d'accord, le gouvernement pourra tout à fait passer outre. Et en réalité, vous avez un système où je pense que les décisions vont être prises aux deux tiers, ce qui fait que chaque partie, les civils vont être dépendants des militaires et les militaires dépendants des civils. Ce qui fait qu'on pourrait très vite arriver à une situation de blocage ou de paralysie de cette institution-là. Donc je pense que c'est un peu la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que ça va donner dans la pratique et quel va être le rôle politique de cette structure-là.
Parce qu'on a le sentiment aussi qu'on y a mis, et notamment chez les militaires, il y en a un dont le nom m'échappe mais vous allez me le rappeler tout de suite, qui a participé à la répression au moment où on n'était pas sûr que cette révolution aboutisse le 3 juin dernier quand il y a vraiment eu des morts. Comment il s'appelle ?
Emeti.
Ouais, mais alors celui-là, Emeti, qui est là aussi. Donc j'imagine que c'est aussi un gage qu'on donne aux militaires. Mais encore une fois, comment se partage le pouvoir là-dedans ? On a fait plaisir à qui exactement ? À l'intérieur de ce Conseil souverain ?
Ça, c'est une question à laquelle il va encore être un peu difficile de répondre. Il va falloir quelques années pour qu'on sache exactement comment les choses se sont déroulées. C'est certain que c'est un gage donné aux militaires. On leur envoie un signal, hein, depuis le début, on veut qu'ils rentrent dans leur caserne, mais on continue à leur donner un certain rôle et on va peut-être en douceur essayer de les exclure du pouvoir.
On est sûr qu'il n'y aura pas au gouvernement, par exemple, des militaires. Est-ce que ça, c'est alors, acquis ? Pas de militaires au gouvernement, que des civils ?
Il y aura deux militaires, normalement, au ministère de l'Intérieur et au ministère
et
de la Défense.
C'est ça, parce qu'ils sont quand même deux ministères importants.
Tout à fait. Donc, c'est une question voilà, de ces équilibres de pouvoir aussi au sein du gouvernement qui va effectivement aussi falloir voir. Et c'est sûr qu'on a fait plaisir dans une certaine mesure à Emeti, mais en fait, on est face à un personnage dont on ne peut pas se débarrasser actuellement. Mais un personnage qui est assez ambigu et les attitudes de beaucoup de Soudanais sont également assez ambiguës vis-à-vis de lui. Donc il a participé à la répression extrêmement violente au Darfour, hein, c'est un des leaders des milices Janjaweed. Mais vous avez actuellement certains Darfouris qui font partie de ces anciennes victimes qui le soutiennent dans une certaine mesure parce que finalement c'est quand même quelqu'un du Darfour, d'une région périphérique qui arrive au plus haut niveau du pouvoir. Et c'est aussi cette question-là, c'est-à-dire que finalement, lui est aussi un de ces personnages, rares personnages au sein de cette structure, qui inclut les régions périphériques.
Mais est-ce que ces gens-là, lui en particulier, mais le Conseil souverain d'une certaine façon a intérêt à ce que le gouvernement réussisse, à ce qu'on arrive effectivement tranquillement vers 2022 et vers la transition, ou est-ce qu'on peut s'imaginer que pendant les 2 ans qui vont venir, chacun va un peu se mettre des bâtons dans les roues, essayer de, je sais pas, tirer son épingle du jeu, surtout d'ailleurs si la transition échoue, au fond, il faudra bien que quelqu'un prenne les rênes du pouvoir. Donc est-ce qu'il y a un risque que l'un mette des bâtons dans les roues de l'autre ?
Oui, c'est tout l'enjeu. En fait, les militaires, et on va dire les membres de l'appareil de sécurité, en fait, hein, plus généralement, ont des intérêts spécifiques. Ils ont aussi des intérêts économiques qu'ils vont chercher nécessairement à défendre. Aussi, il faut savoir que toute l'économie du Soudan, c'était une économie quand même de guerre, avec beaucoup d'argent qui avait été investi là-dedans. La paix, ça veut dire moins d'argent investi là-dedans aussi. Donc ça veut dire peut-être aussi aller contre les intérêts de l'armée, etc., et de ces milices-là. Un désengagement du Yémen, par exemple, serait, alors je pense que c'est pas à l'ordre du jour, mais serait désavantageux pour Emeti. Donc nécessairement, vous allez avoir ces intérêts-là spécifiques qui vont entrer en jeu. Et moi, je peux pas nécessairement vous dire comment les chacun va jouer, céder.
C'est ça qu'il faudra observer, en fait, pour voir comment les choses se mettent en place. Le premier ministre, vous l'avez dit, il s'appelle Abdallah Hamdok, ancien diplomate, destiné à servir de vitrine à l'international. J'imagine son boulot, c'est celui-là, c'est lui qui va chercher l'argent. Disons les choses clairement. Est-ce que c'est lui qui a chiffré à 8 milliards de dollars pour pouvoir faire tourner le pays? Son boulot, c'est ça, aller chercher l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, le Soudan, rassure suffisamment pour que oui, on investisse en tant que pays, en tant qu'entreprise, tout, pour qu'on investisse au Soudan aujourd'hui, pour que cet argent arrive vraiment dans l'escarcelle du pays.
Alors j'en doute assez fortement, je pense que la situation d'incertitude est telle qu'avant que vous ayez, en tout cas des acteurs privés, je pense qu'il va falloir attendre un petit moment, pour les institutions internationales, pour les bailleurs de fonds, voilà, les pays, voilà, les relations bilatérales, voilà, la question, c'est dans ce contexte d'incertitude, si on envoie des fonds, où est-ce qu'ils vont ? Et vous avez le problème, hein, qui est que le Soudan est toujours sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme, mis en place par les Américains. Et Washington a dit hier ou avant-hier que, pour l'instant, ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour, étant donné qu'on n'a pas vraiment de certitude sur la nature démocratique de la transition, de retirer le Soudan de cette liste-là. Ce qui veut dire que le Soudan n'a pas accès à un certain nombre de prêts, etc., qui pourraient l'aider. Alors même que les Américains ont admis que ça pouvait entraver, en fait, la transition de ne pas leur donner cet argent. Donc là, on est dans une position un petit peu paradoxale. Et je pense que c'est un des défis de ce Premier ministre-là. Ça va être d'essayer peut-être de négocier
Ou de contourner, on reste sur la liste, mais donnez-nous quand même une chance d'eux, parce que je pense à d'autres, je pense à l'Arabie Saoudite, je pense aux Émirats, je pense à l'Égypte. Est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à ce qu'il y ait un gouvernement démocratique qui s'installe au Soudan au fond? Donc, est-ce qu'ils aideront leurs, j'allais dire voisins, on n'est pas tout à fait voisins, mais enfin, est-ce qu'ils aideront le Soudan dans ce contexte-là ou pas? Y compris financièrement, donc l'argent est là.
Oui, alors en fait, il y a des fonds hein, qui, ça fait longtemps que ces pays-là, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, ont investi hein, plus ou moins au Soudan. Ils ont des terres, acheté des terres au Soudan, etc. Donc on a des intérêts certains. Je veux dire, en fait, ces anciennes ministres Janjaweed sont sur le terrain au Yémen pour l'Arabie Saoudite, sont un peu l'armée de mercenaires qui est embauchée dans la région par des États qui n'ont pas d'armée. En place.
Mais est-ce qu'ils ont intérêt à aider à cette transition pour arriver vers un gouvernement démocratique?
Alors je pense que la question c'est à quel niveau en fait est-ce qu'ils peuvent faire confiance aux civils et où sont leurs intérêts? Je pense qu'un régime démocratique n'est pas nécessairement contre leurs intérêts. Ça dépend de comment les civils jouent également avec ces acteurs-là. Et en fait, à partir du moment où la question, c'est un peu ça depuis le début, c'est qui est garant de la stabilité du pays? Est-ce que ce sont les militaires qui ont quand même été responsables d'une grande partie de l'instabilité du pays depuis 89? Ou est-ce que ce sont les civils? Et ça, c'est le défi des civils depuis le début, c'est de montrer que la situation sécuritaire, ils peuvent la maîtriser et que ce sont eux qui sont les acteurs qui peuvent apporter cette stabilité-là.
On va revenir là-dessus un instant. Je voudrais qu'on reste sur l'argent quelques minutes. Qu'est-ce qui reste en termes de ressources? Il y a plus de pétrole au Soudan, puisque c'est le Sud-Soudan. C'était un pays très agricole. Donc, vous l'avez dit, effectivement, une économie de guerre qui est censée s'arrêter. Donc, les ressources, c'est quoi, en fait?
Alors, c'est déjà, effectivement, l'agriculture. Il y a toujours eu cette idée que le Soudan pouvait être le grenier, si né de l'Afrique, du moins du Moyen-Orient. Une idée qu'il faut peut-être un petit peu dépasser en réalité, parce que ça a été essayé plusieurs fois, ça a échoué plusieurs fois. Vous avez de l'or, qui pour l'instant part essentiellement sur les marchés noirs et qui donc n'apporte pas vraiment de devises, etc. à l'État. Vous avez aussi une ressource qui est la gomme arabique, où le Soudan est un des premiers producteurs
mondiaux. Oui, j'ai vu ça, mais il y a beaucoup de gens. Moi, ça m'a beaucoup étonné. En fait, je sais qu'on en met dans le coca, mais ça se vend vraiment beaucoup. Je veux dire, ça remonte une économie, la gomme arabique.
Je suis pas certaine. Alors, je suis pas économiste, mais je ne suis pas certaine que ce soit suffisant. Donc, je suis assez curieuse de voir ce que le Premier ministre va proposer comme modèle. Et en fait, le problème, c'est que on a une économie, notamment dans l'agriculture, où on a des ressources, mais où on est tourné vers l'exportation, ce qui explique ce paradoxe d'un pays qui produit énormément de blé, etc., mais qui est où les gens ont faim et n'ont pas de pain. Et évidemment, l'exportation, c'est ce qui bénéficiait aux gens qui avaient les champs, les structures, les entreprises, etc. Donc, il va falloir aussi remettre en question cette structure-là, en fait, même de l'économie.
Donc, remettre en question la structure de l'économie, il va falloir faire la paix avec un certain nombre de groupes rebelles, ce qui n'est pas une mince affaire non plus. Qu'est-ce qu'on dit, ceux qui ont fait la révolution, ceux qui ont fait leur fameux sitting, ceux qui ont mis 8 mois à arriver où on en est, qu'est-ce qu'ils disent?
Alors, je pense qu'il y a... Il y a un optimisme prudent, de façon générale. Après, nécessairement, vous avez des gens avec des avis extrêmement divergents. Pour un peu caricaturer, vous avez ceux qui sont plus radicaux, qui sont notamment, vous avez tous ces comités révolutionnaires qui sont mis en place au niveau des quartiers, etc., qui, eux, considèrent que, le Conseil souverain, c'est une aberration. Avoir encore des militaires au pouvoir, ce n'est pas normal. Et en fait, c'est une trahison de la révolution. Et vous avez ceux pour qui, plus pragmatique, même si je n'aime pas trop le terme, pour qui négocier avec les militaires est inévitable et nécessaire. La question, c'est est-ce que ces tensions-là vont à un moment donné aboutir à une dissolution de l'alliance au sein des civils et quel va être l'impact de ce genre de tensions? Mais de façon générale, même si on a des voix extrêmement critiques qui s'élèvent, je pense qu'il y a une sorte d'optimisme en avance vers un avenir incertain, mais on a quand même des signaux que les choses, que les civils ont quand même pas trop mal joué leurs cartes.
On sait ce qui se passe si au bout de les fameux 3 ans, 3 mois, le pays n'est pas prêt. Qui dira d'ailleurs si on est prêt ou si on n'est pas prêt? Est-ce qu'on a une vision à ce terme-là où on avance en marchant?
Est-ce qu'un pays est jamais prêt pour la démocratie? Enfin, la démocratie historiquement se construit. C'est un malentendu en fait.
La deadline, c'est en 2022, il y aura de toute façon des élections. Donc même si l'économie n'est pas remontée depuis, même s'il reste des groupes rebelles etc., de toute façon ces élections auront lieu. En l'état, en tout cas, c'est comme ça que c'est censé se passer.
C'est comme ça que c'est censé se passer, c'est à voir si effectivement c'est ce qui va être maintenu en fonction de la situation, effectivement sécuritaire, etc. je pense que ce serait assez problématique de ne pas réaliser ces élections, à moins que la situation sécuritaire se soit détériorée à un point où vous ne pouvez tout simplement pas, les mettre en place, qu'on n'espérait évidemment pas. Mais effectivement, en fait, il va falloir voir comment les choses progressent, et ce ne serait pas la première fois qu'on voit des transitions... en fait, on reste dans un état de transition, un état hybride.
Je pose la question parce que quand on a vu la manière dont les choses étaient en train de se dérouler au Soudan, on peut pas s'empêcher de regarder l'Algérie à côté et de se dire que peut-être qu'il y a quelque chose à suivre, un modèle à suivre. Est-ce qu'ils en sont conscients, les Soudanais, qu'il y a cet exemple-là, que si ça réussit là, il peut effectivement se passer quelque chose qui sera même plus gros qu'eux, en fait.
Oui, tout à fait. Et depuis le début, les Soudanais, c'est pas leur première révolution, c'est quand même leur troisième, ce n'est pas rien. Dans un pays qu'on observe assez peu en général, et il y a effectivement une conscience d'être, une volonté de faire l'histoire. Et moi, une de mes questions, c'est qu'à partir du moment où on peut peut-être avoir au sein des militaires aussi des gens qui ont conscience d'être en train de faire cette histoire et qui aimeraient peut-être bien qu'on se souvienne d'eux de façon positive. Il y a vraiment clairement cette conscience-là. Après, je ne sais pas si de leur côté les Algériens regardent ce qui se passe au Soudan, mais la situation, la structure du régime n'était pas la même dans les deux cas. La place de l'armée en Algérie est quand même bien plus ancrée qu'elle ne l'était au Soudan, ce qui peut expliquer l'état actuel des choses.
Le Soudan nouveau sera civil, est-ce qu'il sera religieux ?
Vaste
question. 30 secondes.
Vaste question. Alors, a priori, dans la nouvelle constitution, on n'est plus dans un État islamique. A priori, la charia, ça va peut-être être fini. On reste dans un État qui est très majoritairement musulman. Les gens ne vont pas s'arrêter de prier demain. Mais faut quand même garder à l'esprit qu'au Soudan, on a toujours eu cet islam politique du régime qui, bien sûr, trouvait des relais au sein de la société, mais aussi l'islam confessionnel, assez traditionnel, l'islam soufi, avec des gens qui ont une pratique qui est assez fluide.
Assez tranquille, ouais.
Voilà, pour le dire. Et même si, on a pu avoir, avec le conflit au Sud-Soudan, une division religieuse, mais qui, en réalité, n'était pas vraiment la question. C'était plus la périphérie contre le centre, et une question économique et politique. Vous avez des minorités religieuses, donc on voit les Coptes notamment, une minorité chrétienne, qui vivaient là et qui, bon an mal an, vivaient, pratiquaient leur culte, etc. Donc voilà, à voir, je pense qu'un pays laïque n'est pas à l'ordre du jour, mais ce ne sera un pays islamique, non. C'est fini.
Toute dernière chose, Anne-Laure-Marie, qu'est-ce qui va se passer avec Omar El-Béchir dont le procès a commencé ? C'est un destin comment ? Est-ce que c'est un destin à la Moubarak, au fond ?
Vaste question à laquelle honnêtement je n'ai pas de réponse. Très peu de gens pensent qu'il va être condamné. De toute façon, il est poursuivi pour des cas de corruption et certainement pas pour des crimes contre l'humanité qui ont été commis sous son régime. Et donc de toute façon, même s'il était condamné, ce serait extrêmement insatisfaisant. On n'est pas comme avec Al Capone, on avait trouvé un moyen malin d'aller le mettre en prison. C'est plus en fait, on a allégé la charge. Peu de gens pensent que ça va aboutir à quoi que ce soit. Son procès, voilà, on remet de jour en jour. Je peux pas vous dire ce qui va en advenir. Historiquement, au Soudan, en général, comme dans d'autres pays, on leur trouve un endroit calme où passer leur retraite, y compris au Soudan. Lui est peut-être moins apprécié. Ce serait peut-être plus difficile pour lui, parce que un régime qui a duré 30 ans, c'était pas le cas des précédents. Mais je pense que c'est une des options les plus crédibles.
Alors, ma chercheuse Afrique de l'Est à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, toujours passionnant. Merci mille fois de votre passage d'un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse, sur France Inter.
Et dans la demi-heure qui suit, c'est le bruit du monde dans un quartier de Jérusalem, mais aussi avec vous, Amélie Perrier.
En Ouganda, un étudiant porte plainte contre le président parce qu'il l'a bloqué sur Twitter.
Le cinéma en VO, on salue le retour d'Eva Bétan. Bonsoir Eva, quoi de
neuf ? Avec Rambo et Terminator, mais aussi des films forts de Cannes.
Formidable, Le Monde à l'envers, Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc. Johnson à la manœuvre.
Oui, j'aime beaucoup son coup de force sur le Brexit.
Allez, à tout de suite tout le monde. Lana Del Rey sur France Inter, Doing Time.
Summertime and the living's easy. Rallies on a microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. So bad, but she treats me like shit.
France.
Le bruit du monde ce soir résonne à Jérusalem, dans un quartier particulier, le quartier Issaouiya, quartier palestinien qui fait l'objet d'une pression policière très importante. Les forces de sécurité mènent là-bas une opération d'ampleur inédite au point que des Israéliens apportent leur soutien aux Palestiniens, le tout sur fond de télé-réalité. C'est Marine Vlaovic qui vous raconte.
Nous dévalons la route qui mène à Essaouiya en compagnie d'Uri Agnon. Il est à la tête d'un groupe d'Israéliens venus soutenir les habitants de ce quartier palestinien de 17 000 habitants.
5 fois par semaine, nous organisons des shifts avec plus de 5 personnes à chaque fois. Il y a toujours des gens qui veulent venir, même si c'est fatigant et parfois dangereux. Parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens à Jérusalem qui s'opposent à l'occupation et qui s'opposent à la manière dont la police traite Issaouiya. Mais ce sont nos voisins. On veut faire preuve de solidarité.
Ils sont accueillis à bras ouverts par une bande d'ados palestiniens. Considérée comme une no-go zone, située entre l'université hébraïque et une route stratégique qui relie Jérusalem à un bloc de colonies, Essaouiya est réputée pour résister aux incursions israéliennes. Mais depuis la mi-juin, il fait l'objet d'une opération policière d'ampleur, d'une durée inédite, explique Ouri.
La police rentre dans le quartier, souvent sans raison. En fait, ils cherchent les problèmes. Parfois, ils restent toute la journée, assez longtemps pour que quelqu'un finisse par jeter une pierre. Et ensuite, ils peuvent commencer à attaquer. On voit des agressions très brutales, mais aussi une violence quotidienne, où les gens sont traités comme des moins que rien, jour après jour.
Détentions arbitraires, interrogatoires musclés, amendes injustifiées, Ouri et ses amis documentent cette violence quotidienne. Plus de 300 personnes ont déjà été arrêtées, les heurts sont fréquents et le pire est déjà arrivé. Il y a 2 mois, un jeune qui tirait des pétards a été tué par la police qui continue de quadriller le quartier. Les forces anti-émeutes s'engouffrent dans les ruelles sombres et accidentées.
On nous envoie la police aux frontières. Aujourd'hui, il y a même les forces spéciales. Et demain, ce sera quoi? L'armée? On ne veut plus les voir ici.
Mohamed Abou Houmous est une figure d'Essaouiya. Le quinquagénaire doit céder de ses 2 cannes pour marcher, mais lui aussi patrouille derrière les policiers.
Essaouiya est pour eux un terrain d'entraînement. C'est pour ça qu'ils viennent. Et ça a un lien avec la décision de Trump qui a dit aux Israéliens « Jérusalem est tout à vous, faites-en ce que vous voulez ».
La situation se tend, des feux d'artifice sont lancés par les habitants, la police réplique, elle, à coups de grenades assourdissantes. Avant de quitter finalement les lieux,
la guerre est finie, mais tous les jours, c'est la même chose.
Mohamed Abou Houmous a depuis été arrêté, puis relâché, à condition de ne plus mettre les pieds dans son quartier pour les 3 prochaines semaines.
Asaf !
Bon.
C'est ici à Essaouiya que les forces de l'ordre sont aussi impliquées dans un scandale de télé-réalité. Pour les besoins du tournage de Jérusalem District, une émission à succès qui patrouille avec les policiers. Ces derniers ont dissimulé une arme chez un habitant à son insu. Tous les épisodes de la série ont depuis été mis hors ligne. Mickey Rosenfeld, le porte-parole de la police, ne souhaite pas en parler.
Cet incident est en cours d'examen, c'est tout ce que je peux dire.
Et l'opération d'ampleur menée à Essaouiya se justifie selon lui par la lutte antiterroriste.
Quand la police n'y rentre pas, qu'est-ce qu'il se passe? Il n'y a plus d'attaques terroristes, ce sont les informations que nous avons du renseignement. C'est donc préférable de mener des patrouilles régulières pour empêcher un incident majeur.
Faux, lui rétorque Aviv Tartaski de l'ONG israélienne Iramim, qui milite pour que Jérusalem soit la capitale de 2 États.
Dans ce cas, on peut même appeler cela une punition collective, puisqu'il n'y a pas d'acte palestinien qui peut être désigné comme l'élément déclencheur de cette violence policière. Donc, on comprend que c'est la mise en œuvre d'une nouvelle politique israélienne très dangereuse qui vise à écraser la communauté palestinienne de Jérusalem.
En l'état actuel, les habitants d'Essaouia menacent de ne pas rouvrir les écoles pour la rentrée scolaire le 1er septembre.
Marine Vlaovic pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le bruit du monde passe aussi sous les radars. Amélie Perrier est là. Et on commence avec un jeune homme qui, dans de nombreux pays, aurait été poursuivi pour diffamation ou injure publique.
Mais cet étudiant ougandais qui vit aux États-Unis, eh bien, c'est lui qui porte plainte aujourd'hui contre son président, Séguya Hillary Innocent Taylor. Il est inscrit à Harvard. Il n'en est pas à son premier coup d'éclat. Écoutez-le ici, lors d'une conférence dans sa prestigieuse université avec le président ghanéen. C'était en mars dernier. Il profite d'une question pour dire ça. Alors mon nom est Séguya Hillary Innocent Taylor, je suis ougandais et je fais mon master de relations internationales à Harvard. J'aurais aimé que l'on puisse vous échanger contre le président de l'Ouganda, le dictateur Museveni, qui est au pouvoir depuis 33 ans. Parce que là, nous lui disons assez, il doit partir. Alors, mine gênée du président ghanéen en face et de l'assistance, voilà l'étudiant Séguya qui aujourd'hui attaque donc le dirigeant de l'Ouganda en justice, car le chef de l'État l'a bloqué sur Twitter. Ce blocage, ça l'empêche de voir les messages de Museveni, d'y répondre et d'engager une conversation en ligne avec le président. Ça le prive de sa liberté de parole et d'expression, dit-il, de son droit à participer au débat public, comme la constitution ougandaise le garantit. Selon sa défense, ce sont les propos que je vous ai fait entendre là, lors de la conférence à Harvard qui ont pu provoquer ce blocage, mais rien d'officiel ne lui a été notifié. Cette passe d'armes, elle survient moins d'un mois après une autre condamnation, alors pas du tout virtuelle celle-là, c'est la condamnation de la militante ougandaise des droits des femmes Stella Nyanzi. Elle a qualifié dans un post Facebook le président Museveni de sale dictateur et de délinquant. Elle vient d'être condamnée à 18 mois de prison pour cyberharcèlement. La prochaine fois, c'est donc le chef de l'État qui sera sur le banc des accusés. On ne peut pas présager de la décision de la justice ougandaise, mais il y a 2 ans, Donald Trump, l'Américain, lui, avait été condamné, oui, pour avoir bloqué des personnes sur Twitter, une violation du premier amendement selon la justice américaine.
Les réseaux sociaux encore, Amélie, et certains permettent de trouver du travail.
Ah, vous connaissez certainement LinkedIn, un réseau professionnel où on s'échange les offres d'emploi et les contacts dans les entreprises. Eh bien aujourd'hui, LinkedIn sert à recruter des espions.
Je voulais vous remercier encore, Hubert, pour tout à l'heure. Et vous dire que j'étais très fière de faire cette mission avec vous.
Je comprends. À ce propos, je voulais vous dire, je sais que vous êtes très admiratif de moi, de ma carrière. Vous connaissez ma vie, vous connaissez mon métier, vous savez que j'ai toujours été un rempart à la barbarie. Malheureusement, tout cela a un prix. Dolores, je vais être un petit peu brutal, mais si jamais il devait se passer quelque chose entre nous, il m'est impossible de m'engager avec une femme. Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps, ce sont des histoires courtes, compactes, passionnelles. Je ne sais pas vivre autrement, Dolores. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure.
Vous avez reconnu Fabienne, hein?
Mais je ne l'ai jamais vue.
Oh, 1617, mais si, il faut voir absolument. Espion interprété par Jean Dujardin. Alors, on ne sait pas qui a eu l'idée de l'embaucher, lui. En tout cas, aujourd'hui, l'aventure, comme celle de 1617, eh bien, elle peut débuter pour certains agents secrets par un simple message via LinkedIn, comme nous le raconte le New York Times. Le contre-espionnage américain, britannique, allemand ou encore français, ces contre-espionnages, eh bien, ils ont repéré des tentatives d'approche par les renseignements chinois, notamment les plus actifs. Apparemment. Un responsable américain explique que pour la Chine, au lieu d'envoyer un agent aux États-Unis pour recruter une cible, eh bien, il est plus efficace de s'asseoir derrière un ordinateur en Chine et d'envoyer des demandes d'amis à des milliers de cibles à l'aide de faux profils, donc sur LinkedIn. LinkedIn, propriété de Microsoft, c'est 645 millions d'abonnés dans le monde, un vivier très riche. Et puis c'est surtout la seule plateforme américaine à ne pas être bloquée en Chine, car la société a accepté de censurer les publications contenant des informations délicates.
Allez, pour terminer, un autre président était sur le point d'attirer les foudres de la justice.
Oui, c'est le russe Vladimir Poutine lors de cet événement il y a 3 semaines.
Здравствуйте, друзья. Привет.
Ah, Fabienne, je suis sûre que vous avez reconnu ce doux bruit de moteur. Hein.
J'entends surtout les klaxons, mais...
Avant, c'était des Harley-Davidson. Okay. Oui, oui. Le chef du Kremlin en a conduit une, sans casque. Deux personnes ont déposé plainte pour qu'il écope d'une amende. Mais la police ne le fera pas payer. Elle considère que c'était une parade de motards organisée, que la circulation était interdite autour. Elle avait déjà utilisé le même argument en 2011, quand Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 à Poutine, avait demandé déjà à l'époque une amende contre le président qui avait conduit son bolide encore sans casque.
Hélas.
Vous mettez un casque.
Moi, c'est obligatoire, mais vous savez qu'aux États-Unis, c'est pas interdit partout. Il y a même des tours de l'Amérique sans casque. C'est mal, mais.
Mettez-le quand même.
Ouais, c'est incroyable. Mm-hmm. Allez, Amélie Perrier, merci beaucoup.
À demain.
À demain. Lou Reed nous accompagne sur France Inter. Sweet Jane. Standing on the corner. Suitcase in my hand. Jackson's corset, Jane is in her vest. And me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding the studs back at gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse. And those ladies, they rolled their eyes. The Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire. Soldiers, all you protest kids, you can hear Jack say, get ready. See Jack, come on, baby. See Jack, see Jack. Some people, they like to go out dancing, and other people, they have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Sweet Jane et Lou Reed sur France Inter. Et le cinéma en VO, c'est vous, Eva Bétan. Ce qu'on vient d'entendre, eh ben, je le dis pas, ce qu'on vient d'entendre.
Eh ben, tiens, voilà. On va laisser les gens deviner.
Exactement. C'est un automne de comeback, hein, et ça en fait partie.
Alors, vous précipiterez, vous aurez piscine quand ces films sortiront. Chacun décidera. Ils sont en effet increvables. Encore un Star Wars, l'ascension de Skywalker. Mm-hmm. Encore un Terminator Dark Fate avec Schwarzenegger. Et encore un Rambo, Last Blood avec Stallone et sa voix inimitable.
She's coming home. You started this. I'll end it.
Alors sur le thème, le cinéma surfe sur des succès plus récents. Mm-hmm. Il y a aussi le livre Le Chardonneret de Donna Tartt qui va devenir un film, en même temps que la très british série Downton Abbey. On se prépare à recevoir des invités de marque.
The post's just arrived, my lord.
A royal luncheon, a parade and a dinner.
Et alors ça, moi je suis totalement cliente.
Les royaux arrivent.
Formidable. Celui qui se renouvelle, en revanche, j'allais dire, c'est James Gray, grand cinéaste.
Et grand chouchou.
C'est le vôtre.
Le film, oui, s'appelle Ad Astra. James Gray envoie Brad Pitt dans l'espace sans renoncer à ses thèmes récurrents. Dans l'espace aussi, l'ombre des pères étouffe les fils.
I do what I do because of my dad.
He was a hero. He gave his life for the pursuit of knowledge.
Alors, donc on arrête là avec les films anglo-saxons, mais je vous dirai si je vois les trois premiers, les Rambo, les Terminator.
Aucun problème. Le vous reste me raconterez
du...
d'ailleurs.
Moi, on ira ensemble, s'il vous plaît.
C'est gentil.
Et qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde?
Alors, il y a des films cannois qui semblent être nés d'une nécessité de filmer, notamment un documentaire syrien pour Sama, qui a été tourné pendant le siège d'Alep, qui a fait fort effet à Cannes et qui s'annonce comme un film important.
نظام سوري حلفائه محاصريننا بحلب مدينتي حمزة كان واحد من 32 طبيب يلي ضلوا بحلب الشرقية.
Atlantique de Mati Diop se passe au Sénégal et c'est l'immigration vue du côté de ceux qui partent et le vide qu'ils laissent. Et puis, je voulais vous signaler aussi Bacaraou du Brésilien Kleber Mendoza Filho. C'est une femme politique totalement baroque et c'est un film de résistance.
Tu viens mon pays, c'est une estrada,
non? Non, non, pourquoi?
Là, engraçado, povoado, non t'a nem no mapa, né?
Comme non t'a no mapa?
É Bacurau.
Voilà, donc tout ça
mais
est allé.
Il y aura encore un Thaïlandais, il y a un film qui se passe en Mauritanie. Non, ne vous inquiétez pas, vous aurez le monde entier.
Bah,
tout ce qui peut exister, vous l'aurez.
Il y aura bien quelque chose de sous-titré en coréen pour que vous me passiez plaisir. Je vous remercie beaucoup.
Moi,
en tout cas, tout ça, tout ce que vous venez de nous citer, Eva, jusqu'à Noël à peu près.
Oui, ouais, c'est jusqu'à Noël, je ne sais pas.
Jusqu'à Noël, voilà.
Voilà, j'ai fait que jusqu'à Noël.
Bah écoutez, c'est déjà ça. Merci beaucoup, Eva Bétan, le cinéma en VO dans Un jour dans le monde, une fois par semaine.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde à l'envers, Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est le dernier rebondissement du Brexit, la décision de Boris Johnson de demander une suspension du Parlement britannique jusqu'à mi-octobre, qui suscite une tempête politique, beaucoup de critiques. Il ne restera en effet alors que 2 semaines aux députés britanniques pour débattre avant la date fatidique du 31 octobre. Et comme d'habitude, vous tournez le monde à l'envers, vous vous demandez finalement si cette suspension, eh ben, c'est pas une bonne nouvelle.
Alors les grands mots sont de sortie hein, chez bon nombre de députés britanniques. Coup d'État, attitude dictatorial, scandale institutionnel. D'ailleurs, Sébastien Paour va y revenir dans le journal de 19h dans un instant. Tout ça après 7 lettres de Boris Johnson à tous les députés du Parlement britannique. Tiens, d'ailleurs, je vous en offre un exemplaire pour votre souvenir. Voilà. Alors, effectivement, vous allez voir, il est écrit noir sur blanc que la nouvelle session parlementaire débutera uniquement le 14 octobre. Autrement dit, le Parlement va siéger quelques jours la semaine prochaine et puis après, aller fermer le banc pour plus d'un mois. À la reprise des travaux, le deadline Brexit du 31 octobre sera donc imminent. Les députés auront le couteau sous la gorge. Cette longue suspension des travaux que la reine vient d'avaliser est sans précédent depuis 70 ans. Mais bon, j'assume, on peut regarder ce coup de force du bon côté. Bon, d'abord, il y a dans cette manœuvre quelque chose de distrayant. Comme souvent dans le film Brexit, il se passe toujours quelque chose. Mais surtout sur le fond, le Premier ministre a peut-être raison. Il pose un acte d'autorité. C'est moi qui décide de l'agenda. J'ai besoin de temps pour rediscuter avec l'Union européenne et pour préparer mon programme législatif global sur la santé, la délinquance, l'éducation, etc. Le Royaume-Uni a beaucoup souffert d'indécision et de manque de leadership sous Theresa May. C'est précisément pour ça que Boris Johnson a été choisi par son parti, parce qu'à l'inverse, il est déterminé, autoritaire, pour sa capacité aussi à tenter des coups politiques. C'est ce qu'il fait. C'est cohérent.
Mais enfin, c'est quand même un coup de force institutionnel contre le Parlement, non ?
Alors c'est vrai, et le modèle démocratique qu'incarne ce régime parlementaire mérite sans doute plus de respect. En même temps, les députés britanniques, passez-moi l'expression, ne l'ont pas volé. Ras-le-bol, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Ce sont eux qui, depuis des mois et des mois, sont incapables de dégager une majorité sur quoi que ce soit. Au printemps, rappelez-vous, ils sont allés jusqu'à voter sur 8 motions différentes sur le Brexit dans la même journée et aucune n'avait obtenu de majorité. C'est comme s'ils avaient oublié le mot « yes », ils ne connaissent plus que le mot « no ». C'est quand même un peu pathétique. Ils ont perdu le sens du compromis, du dialogue, de l'intérêt général. Ce régime parlementaire s'est en quelque sorte cassé les dents sur le résultat d'une pratique, le référendum, qui est contraire à sa logique institutionnelle. Et puis en plus, l'absence de leaders crédibles, les petits calculs électoraux ont mis les derniers clous sur le cercueil. Donc on ne voit pas pourquoi ces mêmes députés deviendraient soudain constructifs, intelligents, sous prétexte qu'ils auraient une session parlementaire classique dès la fin septembre, début octobre. Donc le choix de Boris Johnson, c'est de ne pas se retrouver englué dans ces débats sans fin qui finissent par empêcher toute décision. Donc il rétrécit le calendrier. Il n'a pas tort.
Donc le risque,
alors il y a un risque. Oui.
Voilà, c'est que tout le monde se retrouve dans le mur, c'est-à-dire no deal au 31 octobre, sortie du Royaume-Uni sans accord.
Alors,
en même temps, c'est ce qu'il veut, non ?
C'est possible, parce que c'est vrai qu'en tout cas que deux semaines, en gros de mi-octobre, donc à fin octobre, ça laisse peu de temps pour examiner des alternatives, pour ne pas dire pas de temps du tout. Donc effectivement, ça peut conduire directement au no deal. Mais ce coup de force de Boris Johnson peut aussi tourner très différemment. Il y a au moins deux autres options. Option 1, un accord avec l'Europe. Après tout, en rétrécissant ce calendrier parlementaire, le Premier ministre britannique s'interdit aussi d'adopter à temps les textes nécessaires pour faire face à une sortie brutale le 31 octobre au soir. Des textes sur la disposition sur la sécurité, la santé, les transports, les douanes, etc. Donc ça laisse penser qu'il cherche à l'inverse un accord avec Bruxelles. C'est possible. Deuxième option, ce coup de force suscite une telle fronde au Parlement britannique, un tel sentiment d'humiliation que des députés de tous bords s'entendent pour renverser le gouvernement. Ça s'appelle un vote de défiance, une motion de censure si vous préférez. Il faut la majorité plus une voix, autrement dit que des députés conservateurs votent avec l'opposition unie dans la colère. C'est techniquement possible la semaine prochaine, avant la fameuse suspension des travaux. Dans ce cas, ça pourrait conduire à des élections générales anticipées. C'est d'ailleurs peut-être le calcul tactique de Boris Johnson, qui est certes fantasque, mais c'est tout sauf un imbécile. Et des élections générales, bonne nouvelle, là encore, c'est finalement ce qui pourrait arriver de mieux aux Britanniques. Une opportunité pour dégager enfin une vraie majorité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pro ou anti-Brexit. Une chance pour y voir plus clair.
Allez, on verra ça d'ailleurs tout de suite dans le journal de Sébastien dans un instant. Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers, c'est tous les jours. Merci beaucoup. Le 18-20, la suite continuera juste après avec le téléphone sonne. Ce soir, on parle des urgences toujours en grève et ce sera donc juste après le journal complet de Sébastien Pao.